Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La Grande Mosquée de Paris et trois autres fédérations nationales ont installé ce dimanche un Conseil national des imams, une instance qui vise à donner un agrément aux imams. Près d'un mois après le coup d'état militaire au Soudan, un accord a été trouvé entre l'armée et le Premier ministre écarté. Un accord pour un retour d'Abdallah Hamdok à son poste. Abdallah Hamdok qui est désormais libre de ses mouvements. Mais de nouvelles manifestations anti-coup d'état ont eu lieu aujourd'hui. Un mouvement de protestation à Tataouine, dans le sud-est de la Tunisie. Des jeunes gens qui demandent notamment des emplois ont bloqué des routes hier. Le délai d'inscription des Libanais de l'étranger sur les listes électorales pour les législatives de mars prochain a pris fin ce samedi à minuit. Ils seront plus de 244 000 à pouvoir voter lors du prochain scrutin. Le 78e anniversaire de l'indépendance du Liban ce lundi, une fête sur fond de très graves crises socio-économiques. C'est au Maroc, la cathédrale Saint-Pierre de Rabat célèbre son centenaire. Nous écouterons le curé de la cathédrale, le père Daniel Nourissa. 243 exilés qui tentaient de traverser la Manche ont été secourus en mer. Ces personnes ont été déposées dans la nuit de vendredi à samedi dans les ports de Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Samira El Hayashi pour Le ventre des hommes, un roman paru aux éditions de l'Aube. Le roman met en scène le combat de mineurs marocains luttant pour leurs droits dans les années 70 dans le nord de la France. Extrait dans votre édition. La Grande Mosquée de Paris et trois autres fédérations nationales ont installé ce dimanche un Conseil national des imams. Une instance qui vise à donner un agrément aux imams. Elle dote, selon un communiqué des fédérations, le culte musulman français d'un espace d'élaboration, de réflexion et d'action concernant l'imamat et sa pratique en France. Ces fédérations évoquent le début d'un travail qu'elles souhaitent collégial, pluriel et normatif afin de renforcer l'installation du culte musulman au sein de la République. Le Conseil français du culte musulman a lui aussi annoncé la création d'un conseil national des imams. Il appelle l'ensemble des instances départementales du culte musulman à se réunir en congrès le 12 décembre prochain pour sa mise en place effective. Près d'un mois après le coup d'état militaire au Soudan, un accord a été trouvé entre l'armée et le Premier ministre écarté. Un accord pour un retour d'Abdallah Hamdok à son poste. Son assignation à résidence a été levée. Abdallah Hamdok est donc de nouveau libre de ses mouvements. Mais les partisans d'un pouvoir civil ont maintenu les appels à manifester. Ce dimanche, des centaines de manifestants ont défilé dans le centre de Khartoum, à Kassala, dans l'Est, ou à Atbara, dans le nord, pour crier non au pouvoir militaire. La répression des manifestants anti-coup d'État a fait depuis le 25 octobre au moins 40 morts, selon un syndicat de médecins pro-démocratie. C'est au Maroc, la cathédrale Saint-Pierre de Rabat célèbre son centenaire. Des festivités auront lieu jusqu'au 29 juin prochain. Entretien avec le curé de la cathédrale de Rabat, le père Daniel Nourissa.
C'est une action de grâce, le centenaire de la cathédrale de Rabat. Ça fait 100 ans que nos frères ont construit cet édifice qui, pour leur communauté chrétienne de l'époque, qui était une communauté de Français, d'Espagnols, d'Italiens au Maroc. Et voilà que maintenant, cette cathédrale, elle abrite chaque dimanche des gens d'une quarantaine de pays différents et parmi eux, pas beaucoup de Français, d'Espagnols ou d'Italiens. Mais elle est vraiment une cathédrale, c'est-à-dire signe de la catholicité de l'Église, de l'universalité de l'Église, grâce à toutes les personnes qui aiment venir y prier le dimanche. Mais pas seulement le dimanche, parce que depuis que Saint-Père François est venu le 31 mars 2019 dans cette église, beaucoup de Marocains sont curieux de venir la découvrir. Il faut dire que la télévision marocaine avait bien fait les choses, puisqu'elle a diffusé l'intégralité de la visite du Saint-Père au Maroc. Et donc beaucoup de personnes ont pu voir les endroits où il est passé. Et un certain nombre sont bien curieux de venir découvrir ce bel édifice. Il y a beaucoup de jeunes, parce qu'à côté, il y a un lycée et un collège. Alors, ils viennent là, certains pour se recueillir, d'autres pour faire une pause, quelques-uns pour recharger leur téléphone, quelques garnements pour faire des vidéos aussi. Mais du coup, nous accueillons et nous sommes présents. Mais elle est vraiment la maison de tous, je crois, et ça, c'est bien. Pendant le confinement qu'il y a eu l'année dernière, il y a deux ans, spontanément, les personnes migrantes privé de toute ressource, toutes les institutions officielles avaient fermé, sont venus s'accrocher aux grilles de la cathédrale. Et du coup, on n'a pas pu ne pas les ouvrir. Et nous nous sommes organisés, en lien avec les pouvoirs publics, pour pouvoir aider un peu ces personnes à se nourrir. Et cette église qui est le lieu de la parole, qu'on écoute, et de la prière, est devenue le fruit de la parole et de la prière, le lieu de la multiplication des pains. Et ça, j'en suis assez profondément touché, quoi.
Et vous, en tant que curé de cette cathédrale Saint-Pierre de Rabat, vous œuvrez notamment pour le dialogue interreligieux.
Alors, on œuvre beaucoup pour le dialogue interreligieux. Et justement, pour quand ces frères et sœurs humains en migration se sont trouvés en difficulté, j'ai lancé un appel. Je me suis inspiré de l'abbé Pierre. J'ai dit, mes amis, j'ai besoin de vous. Mes amis, j'ai besoin de vous, comme avait fait l'abbé Pierre en 1954. Et bien des gens se sont levés, pas beaucoup de chrétiens d'ailleurs, mais des Marocains. J'ai quand même été très bouleversé de recevoir de nombreuses contributions financières fidèles de la part de personnes marocaines qui ont versé leur zakat à l'Église catholique, c'est-à-dire l'aumône du carême, l'aumône du ramadan, qui l'ont versé à l'Église catholique pour le service des migrants subsahariens. C'est quand même étonnant. Et puis des personnes dont l'Église est loin ou qui n'ont peu de relations avec elle sont spontanément venues en disant « si c'est à l'Église, c'est que c'est sérieux ».
Pouvez-vous nous rappeler le contexte historique de la construction de cette cathédrale Saint-Pierre de Rabat ?
Alors cette église a été construite, inaugurée le 17 novembre 1921, c'était le jour de l'anniversaire du maréchal Lyautey, qui était à l'époque le responsable du Maroc, responsable envoyé par les Français pour diriger le Maroc, si j'ose dire. Je ne suis pas sûr qu'on ait une photo de lui, mais on sait qu'il était présent. Il avait choisi, quelques années avant, de faire de Rabat la capitale du Maroc, en accord avec le sultan. Rabat n'avait très peu été capitale au Maroc. Jusqu'alors, c'était Marrakech ou Fès ou Meknès pendant très longtemps, quelquefois Salé même. Et donc, il a été choisi de faire de Rabat la capitale du Maroc et on a voulu faire une ville nouvelle qui soit une belle ville, une ville selon des normes modernes dont pourraient s'inspirer tous ceux qui participent au COP tous les ans, puisque on a commencé par dessiner des jardins pendant 2 ans, avant de construire des maisons. Ce qui fait que c'est une ville très verte, et la cathédrale est dans un lieu assez vert, dans une jolie place. Le maréchal Lyautey avait beaucoup de soucis qu'on construise à la fois, comme s'inspirent les architectes, mais qu'en même temps, on ait le souci de manifester qu'on est au Maroc. Il veut dire que, par exemple, dans cette église du style Art déco, les arcs sont des arcs islamiques, qu'il y a du zélige partout, de la mosaïque un peu partout, cet art formidable des Marocains, en particulier un étonnant chemin de croix, et que, comme partout au Maroc, on construit à l'intérieur, en bas on met de la pierre ou du marbre, au-dessus on met du stuc, et le plafond est en bois de cèdre, et c'est ainsi dans notre belle église Saint-Pierre, qui à l'origine était une église paroissiale. Il n'y a eu d'évêque à Rabat qu'à partir de 1923, le vicaire apostolique, Mgr Dreyer, qui était nommé en 1923, et à cette époque, donc, il a choisi cette église comme sa cathédrale.
Aujourd'hui, vous communiquez sur cet anniversaire et vous avez choisi de mettre en lumière notamment une rencontre islamo-chrétienne au sein de cette cathédrale. C'est un élément particulièrement important.
Pour nous, c'est important de dire que cette église est autant aux Marocains qu'aux chrétiens qui sont là. Elle a été construite par des mains marocaines dans cette ville. Le terrain a été donné par des tribus qui l'ont donné. Mais surtout, la maison de Dieu, elle est pour tous. La maison de Dieu, elle est pour tous. C'est aussi de notre part comme un appel dans un pays où, jusqu'à présent, on n'a pas jugé bon de permettre aux non-musulmans d'aller dans les mosquées, alors que ça se fait dans beaucoup d'autres pays. Pour nous, c'est un signe, pas du tout de leçon, mais c'est un signe que nous puissions accueillir le samedi matin 21 novembre. C'était hier, je crois, pour les auditeurs. Il y a eu une messe un peu solennelle avec l'archevêque et beaucoup de prêtres du diocèse. Mais le soir, il y a eu un concert qui a été donné par un chœur marocain. C'est un organiste marocain qui a remis en service l'orgue de la cathédrale et qui va nous jouer une ou deux pièces de Bach en même temps que le chœur va chanter des motets chrétiens. D'ailleurs, tous marocains, ils vont chanter des motets chrétiens. Donc c'est vraiment un signe de dialogue interreligieux. Alors le centenaire va durer jusqu'au mois de juin prochain, jusqu'à la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il sera rythmé par des conférences, des concerts de musique classique, des concerts de nombreuses chorales chrétiennes au Maroc, et puis des événements assez divers, en particulier fin mars. Nous souhaitons marquer le troisième anniversaire de l'avenue du pape François. Et à cette occasion-là, sûrement une autorité du ministère des Affaires religieuses et l'archevêque de Rabat, le cardinal López Romero, reliront mutuellement le discours du roi et le discours du pape, qu'il y a eu à cette occasion-là, qui sont des documents très importants, de ce qu'on appellerait dans l'Église le magistère, et qui valent la peine d'être écoutés, et nous souhaitons montrer comment nous avons reçu ces documents-là, les musulmans ont reçu la parole du Saint-Père, et comment nous autres catholiques recevons la parole du commandeur des croyants.
Le père Daniel Nourissa, curé de la cathédrale Saint-Pierre de Rabat, la cathédrale qui célèbre son centenaire. Le délai d'inscription des Libanais de l'étranger sur les listes électorales pour les législatives de mars prochain a pris fin ce samedi à minuit. Plus de 244 000 électeurs pourront voter lors du scrutin. 22 668 Libanais se sont inscrits en Océanie, 6 350 en Amérique latine, 59 211 en Amérique du Nord, 74 882 en Europe, 19 276 en Afrique et 61 204 en Asie. Le 78e anniversaire de l'indépendance du Liban, ce lundi, une fête de l'indépendance sur fond de tensions politiques, de très graves crises socio-économiques marquées par de multiples pénuries et une inflation record. Un mouvement de protestation à Tataouine, dans le sud-est de la Tunisie, déjà jeunes gens ont bloqué des routes hier. Ils demandent des emplois et des fonds débloqués pour leur gouvernorat. Les manifestants menacent désormais de perturber la production pétrolière si leurs revendications n'aboutissent pas. C'est arrivé ce dimanche dans la vieille ville de Jérusalem. Une personne a été tuée, trois autres blessés dans une attaque à l'arme à feu. L'assaillant a été tué. Bruno Le Maire en visite dans le Golfe ce dimanche. Le ministre français de l'économie est à Abu Dhabi. Il se rendra ce lundi à Dubaï. Il évoquera la coopération entre la France et les Émirats arabes unis dans les domaines de l'espace, de l'énergie et des semi-conducteurs. 243 exilés qui tentaient de traverser la Manche ont été secourus en mer. Ces personnes ont été déposées dans la nuit de vendredi à samedi dans les ports de Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque. Elles ont été prises en charge par les pompiers et la police aux frontières. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a noté une nouvelle accélération en novembre des tentatives de traversée qui avaient déjà doublé ces trois derniers mois, alors que leur rythme ralentissait à l'automne les années précédentes. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Samira El Hayashi pour Le ventre des hommes, un roman paru aux éditions de l'Aube, un roman qui met en scène le combat de mineurs marocains luttant pour leurs droits dans les années 1970 dans le nord de la France, extrait de cette émission.
Pour la première fois, j'ai dû faire un peu le travail d'une historienne, alors que je ne le suis pas. Donc j'y suis allée un peu en tremblant et je me suis plongée dans des archives. J'avais très peu de sources. Et les ressources que j'avais, c'était surtout la parole de ces anciens mineurs. Alors effectivement, on est au tournant des années 70 et la France manque de bras pour aller puiser dans le charbon. On sait très bien que les mines de charbon vont fermer. Et à ce moment-là, la France a une idée très surprenante, voire tout à fait scandaleuse même, qui est d'aller chercher des hommes dans le sud du Maroc qui vont être là pour préparer la fermeture des mines des autres nationalités. Et ces hommes-là n'auront pas, eux, le statut de mineur, qui est un statut qui existe depuis la libération, hein, après-guerre, et qui garantit des droits comme le logement, le droit au logement, le travail à vie. Enfin, voilà, on est dans, c'est quasiment du fonctionnariat. Et c'est cette histoire-là, cette injustice-là de départ que j'avais envie de raconter.
Le père de l'héroïne a été porte-parole des mineurs en grève.
Effectivement, le projet de ce roman, c'était surtout de rendre compte de la force de ces hommes à prendre la parole dans l'espace public, à s'éprouver au contact de la France et des villes du bassin minier, qui avait quand même une histoire avec le communisme, une histoire du syndicalisme. Il me semblait que c'était important de montrer ces hommes-là qu'on a souvent perçus sous l'angle du misérabilisme, de personnes dociles. Non, au contraire, elles sont très très riches, elles ont une langue, elles ont une histoire, et surtout elles se sont battues pour leurs droits, avec les moyens de la démocratie aussi. Elles ont utilisé la grève et d'autres, elles ont désobéi aussi. Anna, donc, va commettre au tout début du roman un acte très fort au sein de l'établissement dans lequel elle travaille, et elle va en profiter pour revenir en arrière dans son enfance et découvrir l'histoire de son père. Elle ne savait pas du tout qu'il avait été porte-parole des mineurs en grève, ce qui est aussi un petit peu mon histoire. Et ça, c'est la réaction d'Anna au moment où elle réalise que, contrairement à ce qu'elle imaginait, il y a la surprise, l'inattendu, que ces hommes se sont battus pour défendre leurs droits, et ça fait écho en elle de récupérer cette part d'indocilité dont elle a besoin aujourd'hui pour elle-même, pour construire sa vie et pour avancer en tant que citoyenne.
Et l'homme que les Français admirent aujourd'hui, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est l'homme qui a dit non.
Il faut se souvenir de ça, c'est-à-dire que l'histoire avance aussi parce que certains se dressent et désobéissent. Et il me semble que cette histoire des mineurs marocains qui ont été seuls, il faut le rappeler, c'était la fin des mines, tout le monde était un peu fatigué, les Marocains se sont retrouvés face à une situation injuste où ils avaient deux solutions, mais surtout retourner au pays. Ils avaient une pression monstrueuse de la part des mouillères, de la part du Maroc aussi, pour rentrer chez eux. Et le combat, il en fallait dans le ventre, le combat qui a été de résister et de dire non. Et c'est cet héritage-là dont j'avais envie de parler, qu'en France, qu'il faut, c'est jamais acquis, il faut toujours prendre soin des institutions et du droit, et on peut pas laisser les autres le faire, on peut pas laisser même la loi elle-même le faire. Il faut à un moment donné prendre, ce qu'ont fait ces hommes, le risque et avoir du courage pour construire un destin juste.
Samira El Ayachi, son roman Le ventre des hommes, un roman paru aux éditions de l'Aube. Elle est l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h, une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.